L'Odyssée d'un voleur de pommes de Moïse Rosenbaumas, autobiographie d'un juif lituanien né en 1922, traduite du yiddish par la fille de l'auteur, est un témoignage sur la réalité foisonnante du monde juif d'Europe de l'Est avant 1945. C'est aussi un document sur l'armée rouge et le système stalinien vécu de l'intérieur. Le texte, écrit en yiddish, a d'abord été traduit par Moïse Rosenbaumas lui-même, puis a été repris par sa fille Isabelle au fil d'un dialogue qui a parfois étoffé le récit initial. Né en 1922 dans une bourgade de Lituanie, Moïse Rosenbaumas raconte la vie de cette société pauvre et laborieuse à la veille de sa destruction. L'auteur évoque les métiers qui avaient à leur cours, les plats de misère et les jours de fête, le climat rude et les jeux d'enfants, glisser sur le lac glacé avec un seul patin et voler des pommes dans les vergers les plus difficiles d'accès. Tandis que le père de Moïse abandonne sa famille après une faillite causée par la crise mondiale, le petit garçon commence à travailler à l'âge de 10 ans, puis devient tailleur. La guerre éclate et l'adolescent s'enfuit après avoir tenté de convaincre sa mère et ses frères de le suivre. Ils seront tous assassinés avec les autres juifs lituaniens entre juillet et décembre 1941. Au cours de son périple, Moïse est interné avec d'autres Russes dans un kolkhoz d'Ouzbékistan où il subit le travail forcé et la faim. Il parvient à s'extraire de cet enfer et s'engage dans l'armée rouge où il sera éclaireur. Décoré comme soldat, il devient cadre du régime soviétique jusqu'à ce que sa conscience et surtout sa femme l'incitent à sortir de cet enlisement dans le système. En 1957, il rejoint ainsi son père en France qu'il n'avait pas vu depuis près de 30 ans. Moïse s'est éteint le 1er novembre dernier. Isabelle a traduit de nombreux ouvrages du yiddish et encore tout récemment chez Kalman Levy, l'extraordinaire journal de Lai Broschmann.
Les Allemands attaquaient sans répit, et les réfugiés sans défense, des gens innocents, de malheureux civils qui n'avaient rien à voir avec la guerre, ne savaient pas comment sauver leur pauvre vie. La nuit, les avions attaquaient moins. Des personnes avançaient à cheval, tandis que beaucoup de gens circulaient comme moi en vélo. Beaucoup avaient utilisé des vélos pour jucher leurs maigres biens et marchaient à côté. D'autres avaient perché leurs vélos par-dessus leurs bagages. Les bas-côtés de la route et les caniveaux étaient envahis de cadavres et de blessés, de chevaux éventrés par les bombes, de charrettes retournées avec leur contenu et le sang qui ruisselait partout sur les flancs des bêtes et des hommes. C'était un carnage. Il est sûr que le malheur était encore plus immense parce que l'armée rouge fuyait elle aussi en empruntant les mêmes axes et que dans ses rangs, les morts se comptaient par centaines et les blessés par milliers. Cette retraite militaire démultipliait le chaos de l'exode des populations. Des milliers de civils, hommes et femmes avec leurs petits-enfants sur les bras, les gens âgés qui avaient du mal à marcher et au milieu d'eux, ajoutant à l'effroi, des soldats blessés par milliers en déroute. Il est évident que les avions visaient les transports militaires chargés de munitions. Comme des aigles noirs, ils piquaient, plongeant avec un bruit à réveiller les morts. Les bombes pleuvaient, et si ça ne suffisait pas, les Allemands ouvraient le feu avec leurs mitraillettes. Tout le monde courait alors sans savoir où se terrer, se jetant à même le sol, et dans cette panique, les cris et les hurlements des mères et de leurs enfants étaient indescriptibles. Il est arrivé que des enfants perdent leurs parents et ne les retrouvent plus jamais. C'était une vision d'apocalypse. Il faut avoir assisté à ces scènes et ressenti la terreur qui vous envahit dans une telle situation pour comprendre la tragédie de la guerre. J'avais donc quitté Telt en prenant les petits chemins en direction de la Lettonie. Avant de partir, j'avais pris soin de rassembler des cartes géographiques que j'avais dénichées au lycée lituanien. J'avais préparé des bougies et des allumettes et m'étais aussi procuré une lampe de poche une gourde spéciale en métal pour l'eau potable. J'avais visité l'appartement d'un général russe où je laissais sans y toucher un pistolet, ne sachant pas qu'en faire. Dans une situation difficile et sans trop réfléchir, je m'étais adapté aux circonstances et n'étais pas mal préparé pour un si long et pénible voyage. Mais quand j'arrivai en Lettonie, je me sentis pour de bon en terre étrangère, et il devint plus compliqué de savoir par où passer pour ne pas tomber sur les Allemands. Même si le letton est également une langue balte et ressemble au lituanien, il n'était pas facile de communiquer avec la population. Les paysans lettons ne comprenaient pas non plus le russe, et moi-même je le parlais très mal à cette époque. J'ai quand même fini par arriver à Riga, capitale de la Lettonie. Là, les bombardements étaient extrêmement violents. Je suis parvenu à traverser le fleuve in extremis. Il était grand temps car l'unique pont fut détruit tout de suite après mon passage. De là, je ne suis pas parti en direction de l'Estonie et de sa capitale Tallinn, mais je me suis enfoncé vers la Russie en visant la ville de Pskov. Je faisais des étapes d'environ 200 km par période de 24 heures. Le plus grand problème était de trouver un endroit pour dormir quelques heures par nuit. La plupart du temps, je dormais dehors en calant le vélo sous ma tête, non en guise de coussin, mais parce que j'avais peur qu'on me le vole. Il m'arrivait de trouver un coin chez un paysan pour une partie de la nuit. J'étais bien content de pouvoir m'abriter auprès des vaches dans une étable, ou mieux encore, sur les foins où l'on dort si bien quand on est fatigué. J'avançais plus profondément dans le territoire russe. Je tiens à dire à quel point l'accueil des paysans russes était amical. Jamais il ne manquait d'offrir un morceau de pain avec un verre de lait. En dehors de toute considération politique, le peuple russe et particulièrement ses paysans a une grandeur d'âme et de cœur absolument extraordinaire. Je commençais à respirer et j'avais moins à souffrir des bombardements. À présent, mon problème majeur était de me nourrir car j'avais bien entendu épuisé depuis longtemps les maigres provisions emportées de la maison. La première mesure fut de vendre ma montre, ce qui me suffit pour un petit moment.
Oh. Werden mit der Winzerpet, also wie ich, in die Gruben von den Wegen liegen die hunderte Töte und Verwundete. Töte fährt mit umgedrehten Wegener und nur mit dem Fund mit Blut. Die Deutschen haben die ganze Zeit bombardiert. Die Plitim, alle unschuldigen zivile Menschen, sind gelaufen in alle Richtungen, nicht gewusst zum Raten, wie zum Raten sie erleben. Bei Nacht klingen sie weniger angreifen. Ich muss auch sagen, als der Umblick ist gewesen sehr groß, weil die Reiterarmee ist sehr gelaufen auf Zürich und nicht vernommen dieselbe Wegen. Und gewöhnlich bei sie sind dann gewesen noch mehr Täter und Verwundete. Könnt ihr sich vorstellen, was es hat sich getan auf die Wegen? Mit den Tägenden Menschen, die Frauen mit den Kindern auf die Hände. Alte Männer, kaum wo sie können gehen. Und zudem militärische Hütten mit sehr Ausstattungen. Und Tage zu dem See fliegen umfliegende schwarze Adlers und nehmen sich herablosen von der Höhe mit einem Tummel. Und die Bomben fliegen nehmen Fallen. Und Tummel ist dort gewinnt wenig. Haben sich beschossen mit Maschinengewehr. Die Leifenes und die Gewalten ist nicht zum Beschreiben. Menschen fliegen unheimlich Leifen in alle Seiten. Kinder haben verloren ihre Eltern und auf viele sind sie mehr nicht gefunden. Mit einem Wort, sie ist gewesen dramatisch. Nur der Mensch hat das durchgemacht. Und gesehen, könnt ihr es leichter verstehen. Von Telt bin ich rausgefahren mit den kleinen Wegen auf die Seite von Lettland. Ferner rausgefahren habe ich sich zugegräht mit vielen geografischen Karten, welche ich habe gefunden in die litwische Gymnasie. Auch elektrische Batterien und auch Licht mit Zwiebeln. Und als ein Flass zum halten Wasser. In einer schweren Lage und nicht viel trachtendig, laut den Umständen, bin ich gewesen gut organisiert. Als ich bin angekommen in Lettland, bin ich sehr gewesen in der Fremde. Weil Elita habe ich sie gekannt, nachfragen bei den Pörim. Wie zum Form besser. Aber in Lettland, auf jede Sprache, ist ein bisschen ähnlich zu Litwisch. Weil das ist auch eine baltische Sprache, ist gewinnt schwer, sich zu verständigen. Die letzten Pörim haben kein Russisch nicht verstanden. Und ich allein habe noch geredet sehr schlecht. Mit einem Wort, ich bin angekommen in Riga. Dort die Bombardierungen sind gewinnt sehr starke. Mir ist gelungen, rüber zu fahren dem Teich, weil der Brick ist geworden zu klappt. Von dann an bin ich gefahren auf die Richtung von Estland, aber nicht gefahren auf Tallinn, nur sich vernommen auf Russland, zu der Stadt Pskov. Ich flieg abfahren genau 200 Kilometer mit Schles. Ein größeres Problem ist gewesen, wo zum Schlafen, etliche so eine Nacht. Oder ich pflege nächtigen, in Dreischen, und dem Inzipiert runterlegen unter den Kopf. Man soll ihm bei mir nicht erwähnen. Oder andermal habe ich gebeten bei Peuer, er soll mir losen nächtigen. In Stall von die Hei, was man halt für die Behemes. Als ich bin herangefahren, tiefer in Russland, muss ich euch sagen, als die Peuerin seinen Gewinn sehr freundlich und allemal gegeben ein Stückchen Brot mit einem Glas Milch. Ich hab freier aufgottend, weil ich hab sie nicht gelitten von den Bombardierungen. Nur sie ist geblieben ein größeres Problem, sich zu besorgen mit Brot, weil das, was ich hab, mitgenommen. Von daheim hab ich sie geendigt, hab ich verkauft mein Säger. Es hat mir geklickt auf noch ein bisschen Teig.
Ich hab sich verliebt in eine Jünger, die Scheine. Und ich kenn zu ihm nicht gut.